Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Adrien Descrulles, 17 ans, Louis Fajrovski, 21 ans, Nicolas Chauvin, 18 ans, Nathan Soyeux, 23 ans. En 8 mois, les terrains de rugby français ont connu une effroyable série noire avec des accidents mortels pour ces jeunes gens, les uns amateurs, les autres professionnels ou en devenir. Ces décès ont causé une grande émotion car on ne va évidemment pas sur un terrain de sport pour y mourir jeune, mais ils ont aussi provoqué des questions sur un jeu devenu au fil du professionnalisme et des années de plus en plus physique, de plus en plus engagé et, disons-le, de plus en plus violent dans les contacts. Il y a des morts, des carrières qui s'arrêtent prématurément. Comment arrêter l'hécatombe dans le rugby? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Didier Rottière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur technique national de la Fédération française de rugby et vous avez été l'un des entraîneurs du 15 de France de 2007 à 2011. Et Philippe Deck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurochirurgien de l'assistance publique hôpitaux de Paris à l'hôpital Beaujon, membre du groupe de travail sur les commotions cérébrales à World Rugby, c'est la fédération internationale, et expert auprès de la fédération et de la Ligue nationale de rugby. Avant de savoir comment trouver des solutions, il faut étudier le problème et même admettre qu'il y en a un, ce qui n'est en fait pas toujours si évident. Comment le rugby, Didier Rottière, est-il devenu si dur, voire même violent?
Alors ça, c'est la vraie question. Parce que le problème, c'est qu'on est vraiment dans du ressenti. Parce que statistiquement, malgré les quatre décès qu'on a pu compter ces derniers mois, le rugby est moins dangereux qu'il y a quelques années.
Il y a moins de blessures graves.
Il y a moins de blessures graves et moins de décès. Ça, c'est clair. Par contre, on est confronté, en fait, à une sensation et à l'image qui est portée majoritairement par le rugby professionnel, qui, en effet, est devenu un sport plus engagé, plus violent. Et donc, on est confronté à ça. Donc, parce qu'en fait, sur les quatre décès, on a vraiment des causes très différentes sur les accidents.
Il y a quand même à chaque fois des chocs hein, qui sont
bien sûr, mais bon, au rugby, c'est
un sport de contact.
40 millions de plaquages dans une saison sur l'ensemble du territoire, donc évidemment il y a des chocs. Voilà. Donc.
Alors la blessure qui statistiquement est en augmentation. Je suis désolé, mais comme dans tous les sports de contact d'ailleurs, c'est une question mondiale. Hein, c'est dans les sports professionnels américains. C'est la commotion cérébrale. Philippe Deck, c'est quoi une commotion cérébrale? Un chaos, comme on dit, quoi.
Alors une commotion cérébrale, c'est une blessure du cerveau. C'est une blessure qui est générée par la transmission d'une énergie cinétique à la tête, qu'elle soit le plus souvent directe, un coup sur la tête, ou indirecte. De temps en temps, dans les cas des whiplash ou les coups du lapin. Voilà. Ça, ça se traduit par un dysfonctionnement du cerveau qui est soudain et qui est très souvent, ou dans l'immense majorité des cas, résolutif en quelques jours, en quelques heures. Et c'est un traumatisme habituellement bénin. On en trouve régulièrement. Dans la vie quotidienne, c'est un traumatisme tout à fait bénin. La seule chose, c'est que quand on pratique un sport de contact, de collision, comme le rugby, eh bien, il peut être amené à se répéter. Donc, il faut le prendre en considération parce que quand on a une commotion cérébrale, on est un peu fragilisé. Le cerveau est un peu fragilisé. Donc, il s'agit de le laisser reprendre ses esprits, en quelque sorte, se reposer. Et des phénomènes biologiques qui se posent en 3-4 jours. Et au bout de 3-4 jours, tout s'est un peu habituellement normalisé et le cerveau peut être à nouveau réexposé au contact.
Quelles sont les conséquences les plus fréquentes sur le plan neurologique? Alors vous le disiez, à court terme, ça peut s'arranger relativement rapidement, mais à plus long terme, la répétition, puisque vous disiez, c'est vous qui avez employé le mot, c'est un sport de collision de plus en plus dur. Quels sont les risques?
Alors les risques, alors c'est pas lié à la brutalité ou à la gravité des contacts, c'est lié à la répétition des commotions. Si on fait plusieurs commotions toute sa carrière, est-ce qu'il y a un risque ou pas? Là, il y a beaucoup de débats. C'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. On le sait dans la boxe, on le sait dans plein de sports comme ça où ces choses peuvent arriver.
Le hockey sur glace, le football américain,
voilà, absolument. Mais ces choses-là sont rares. Elles sont pas. Ça existe, il faut pas nier ce problème et toute la communauté du rugby l'a bien noté, l'a bien pris en charge et l'a bien reconnu. Maintenant, c'est quelque chose qui peut toucher éventuellement quelques personnes dans des conditions bien particulières, mais c'est vraiment quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'exception.
C'est quelque chose qui a été bien pris en charge, Didier Retière. On a créé ce qu'on appelle les protocoles commotion pour voir si le joueur est en état de reprendre le jeu ou pas. Est-ce qu'ils sont toujours bien respectés? Est-ce qu'il faut aller plus loin?
Alors, ce qui est très compliqué, parce que en fait, c'est surtout une blessure qui a été méconnue, parce que jusqu'à maintenant, qui a été prise en compte de manière importante, de manière très récente, parce que des commotions cérébrales, on en fait dans la vie de tous les jours, hein, quand il y a des accidents de voiture, des enfants dans les cours de récréation en font. Et pendant longtemps, c'était le fait de bravoure du rugby, mais aussi dans plein d'autres.
Coup d'éponge magique et ça repart.
Exactement, hein. Exactement. Et donc, c'est quelque chose vraiment qui est nouveau. Et donc, il y a cette prise en charge maintenant. Et la fédération internationale, mais la fédération française de rugby a vraiment pris ça à bras le corps. En effet, il y a des protocoles qui ont été jugés souvent par les gens, par nos pratiquants même, comme étant contraignants. Et donc tout l'intérêt, c'est de faire comprendre l'utilité à la fois à tous les encadrements, mais surtout d'abord aux joueurs, à leur famille. C'est-à-dire que voilà, quand on se sent toujours bien, hein, et nos joueurs, quand même ils
sont
commotionnés...
On est chaud et on a envie de continuer, c'est
voilà,
ce que vous voulez dire.
Parce que c'est ça le problème de la commotion, évidemment, les commotions quand le joueur est KO, et tout le monde sait bien que le joueur là est commotionné. Par contre, il y a des choses qui parfois sont beaucoup plus fines et qu'il faut déceler. Et donc, c'est en alertant tout le monde. Et je crois qu'en effet, on n'aura pas de protocole magique qui mettra une lumière sur le joueur à partir du moment où il est commotionné. Donc c'est pour ça qu'il faut que en fait chacun soit responsable de la sécurité, de sa sécurité et de la sécurité de ses partenaires et de ses adversaires aussi.
Il y a une nouvelle règle depuis le début de la saison, hein, chez les professionnels, qui fait que si l'arbitre n'est pas trop sûr de l'état du joueur, il peut carrément lui ordonner de sortir et d'arrêter le match. Hein.
Alors, cette règle,
le carton bleu,
c'est sur. En fait, son origine, il a surtout été mis au départ dans le rugby amateur. Et donc, on a formé nos arbitres, parce que c'est pas quand il a le doute, c'est surtout quand il commence à avoir le doute de que le joueur est commotionné. À ce moment-là, ils sont missionnés pour ne pas prendre de risques. Et de dire, à partir du moment où on a un doute, ils sont formés sur les signes qui traduisent une commotion, eh bien ils ont le missionnement de faire sortir le joueur et donc de le signaler par le carton bleu. Et ce qui est important avec le carton bleu, surtout dans le rugby amateur, c'est que le joueur ne pourra revenir à la pratique que s'il a consulté un médecin.
Voilà. Philippe Deck, quand les médecins récupèrent les joueurs sur commotion, sur protocole commotion, à quoi ils s'attachent pour essayer de voir s'ils peuvent retourner jouer ou pas?
C'est assez compliqué parce que la commotion, il n'y a pas de test magique qui dit voilà, lui il est commotionné ou lui il ne l'est pas. Donc faut se débrouiller avec tout un grand nombre de faisceaux d'arguments, de signes, de symptômes. Et là, World Rugby n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Il y a des conférences internationales de consensus sur ce sujet, avec des tests qui sont appliqués dans tous les sports, dans toutes les nations. Et World Rugby a décliné ces travaux pour le rugby.
Où est-ce qu'on est? Où est-ce que tu habites? Compte jusqu'à 10?
C'est plus que ça. Ça teste l'orientation, ça teste l'attention, ça teste la concentration, ça teste la capacité de mémoriser, ça teste un certain nombre de choses. Plus, il faut associer l'équilibre. Et le point majeur sur lequel on a été beaucoup insisté cette année, c'est l'analyse vidéo. Et ça, faut le dire et le redire. Aujourd'hui, les médecins, comme les arbitres, ont accès à une sorte de vidéo et de revue vidéo, et sont capables de repérer des signes. Et on a décrit, et ça pour nous médecins, ça a été une expérience formidable, parce que on a appris beaucoup de choses avec ce sport, et on a appris à reconnaître tous les signes cliniques, un grand nombre de signes cliniques de la commotion qu'on peut observer comme ça la vidéo.
Les décès dramatiques que j'évoquais en préambule de cette émission ont entraîné quelle réaction de la part des institutions, qu'elles soient françaises ou international, Didier Retière?
Alors,
évidemment. Parce que c'est difficile de se dire, il faut pas réagir sous le coup de l'émotion, mais il faut quand même réagir.
Alors oui, mais il faut réagir avec aussi mesure et pertinence, parce que l'émotion est pas toujours très bon conseillé. C'est-à-dire que si on modifie quelque chose pour que ça génère une situation plus compliquée, c'est pas non plus le but. Évidemment, il y a eu beaucoup d'émotions parce que je crois que, comme on l'a dit,
c'est terrible, hein,
le drame humain, il est là. Et
c'est des jeunes en plus, donc ce serait pareil, si c'était des joueurs en retraite, en pré-retraite. Hein.
C'est, ouais. Voilà, enfin, je crois que c'est sûr que c'est, on est toujours le fils de quelqu'un
ou le père de quelqu'un.
Le père de quelqu'un, voilà. Donc, ouais, il y a d'abord une forte émotion, et ça a été le cas. Après, justement, aussi, la volonté de comprendre. Et donc, on a repris toutes les statistiques, on a recompulsé tout ce qu'on avait déjà, parce que on a connu, hein, une période compliquée avec la mêlée, et donc on a essayé vraiment d'analyser les choses. Après, je crois que ça nous a pas alerté, enfin les statistiques malheureusement ne montrent pas de décrochage au niveau de la sécurité. Donc après, il y a deux choses, il va falloir approfondir aussi pour vérifier toutes les hypothèses, et puis commencer à je pense travailler aussi sur l'image du rugby, parce que évidemment que l'émotion et cette sensation de dangerosité, elle vient de quelque part, et on sait bien, et on l'a constaté, et on a alerté un certain nombre de fois sur le tournant un peu agressif que prenait le top 14 et le rugby professionnel en général.
Oui, on a vu encore le week-end dernier, ouais, ou celui d'avant, des gestes vraiment très très durs de joueurs particulièrement forts physiquement. Vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Et comment est-ce qu'on peut changer les choses de ce côté-là ? Parce que c'est vrai que pour les jeunes, il y a un effet d'imitation de ce qui se passe au plus haut niveau.
C'est ça, le problème, c'est la... Il y a une...
L'exemple vient d'en haut, quoi.
Voilà, c'est la prise en compte de cette responsabilité qui est aussi, un fait nouveau, parce qu'on était plutôt jusqu'à présent dans la dimension spectacle et le côté un peu extraordinaire. Et c'est vrai que...
Un peu gladiateur.
Exactement. Le rugby a été malheureusement trop souvent comparé au jeu du cirque, et je crois que ça n'a jamais été le cas. Et donc voilà, c'est à repenser aussi la manière de présenter l'activité. Et donc, en effet, c'est peut-être d'évoquer la modification d'un certain nombre de règles.
Philippe Deck, si on change les règles, si... comme c'est évoqué, on abaisse la ligne du plaquage. C'est-à-dire qu'on peut plus faire de plaquage jusqu'au niveau des épaules, mais disons jusqu'au niveau de la ceinture. Est-ce qu'il n'y a pas des risques que des organes, type le foie, la rate, soient touchés, vu la puissance des joueurs ? Est-ce qu'on ne va pas aller vers d'autres blessures ?
Alors ça, je ne le crois pas vraiment, parce qu'il faut, pour léser un organe abdominal, ça arrive. Dans n'importe quel sport, ça arrive. Dans le rugby, ça arrive. Moi, pour l'avoir, pour organiser le programme de surveillance des blessures en match de tout le top 14, de tout le Pro D2, depuis 8 ans maintenant, je n'ai vu qu'une plaie d'un organe interne, c'est tout. Et donc, c'est quelque chose de rare, et c'était un coup particulier dans un abdomen de quelqu'un, mais vraiment d'une façon très particulière. Donc, le plaquage, évidemment que ça a un intérêt de le baisser, parce que la tête, c'est quelque chose de solide, donc il faut qu'elle rencontre en face quelque chose qui est moins solide qu'elle. Donc pas une autre tête, pas une épaule, pas une hanche, pas un genou, pas une cheville. Donc la partie d'abdomen et tout, elle est parfaite pour accueillir la tête si jamais elle se présente là. Donc effectivement, il faut se baisser et il faut plaquer. Mais la chose qui est importante à propos des règles, c'est que autant la mêlée, c'était facile. C'était peut-être plus simple de modifier un peu les modalités d'entrée. Les accidents, maintenant, ça arrive dans les plaquages. Modifier les plaquages est une drôle d'histoire, hein, c'est pas facile.
C'est dans le cours du jeu, ça va très vite.
Exactement, et ça va extrêmement vite. Donc, je parle devant Didier, qui est un grand spécialiste, il m'a montré plein de fois cette affaire-là. Mais il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est que je pense, en plus, que la prise de conscience est telle que ça va venir assez vite. Parce qu'on le voit bien, depuis quelques années que je suis ça très très attentivement, on passe d'un sport vraiment de collision très frontale à... On voit bien les équipes élites du top 14 sont des équipes qui jouent beaucoup à la balle, qui se déplacent.
Alors
qui
les deux premières équipes du classement, et effectivement, jouent beaucoup en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas.
Non, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est le jeu, et on arrive à ça, et l'équipe de France va suivre le même chemin, on va l'espérer, et ça va suivre ce rythme-là. C'est bien le constat qu'il y a eu un moment un problème.
Ce qui est assez curieux.
Je ne sais pas ce que tu en penses, Didier. Ouais.
Oui, je pense que c'est une des pistes. Après, pour revenir sur le système, le changement des règles, c'est la Fédération internationale. Même si le seul pays où il y a eu une période comme ça très compliquée, ça a été l'Angleterre en 2014. Mais c'est pas l'ambiance mondiale n'est pas du tout celle de la France. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Il y a quand même des pays, genre par exemple le Pays de Galles, où il y a des joueurs qui ont pris de multiples KO. Je pense à l'allié George North, Lee Alfeny récemment.
Mais dans ce pays-là, le côté de la dangerosité du rugby n'est pas un débat. Mmh. Et donc, c'est assez particulier, même s'il y a une prise en compte des commotions, parce que c'est aussi mondialement. Voilà, il n'y a pas la même, acuité aujourd'hui dans le monde... Sur la dangerosité du rugby. Par contre, voilà, ils ont le World Rugby entendu, parce que nous, Bernard Laporte, le président de la fédération, a demandé justement à une réunion en urgence qui a été tenue suite au décès de Nicolas Chauvin. Et donc, ils ont pris en compte cette affaire-là, même si déjà il y avait des études qui étaient menées pour baisser le plaquage. Voilà, c'est une décision mondiale qui malheureusement ne prendra pas en compte que la France.
Ce que vous nous dites, c'est que en fait la France est obligée d'attendre une décision de World Rugby. Est-ce qu'on pourrait pas se dire là pour je vais prendre l'exemple d'un club cher à votre cœur, Didier Rothier, là pour le match de cadet du Stade Dijonais contre Nevers samedi, on change les règles. On peut pas faire ça.
Alors juste une remarque. Alors peut-être que les gens l'oublient. Mais justement, ces cadets-là, ils n'ont pas le droit de plaquer au-dessus du sternum.
Oui, c'est vrai, absolument.
Voilà, donc ça aussi, ça veut dire que la France est une des rares nations qui pour protéger les joueurs dans ces compétitions locales, pris cette décision. On a 80, plus de 90% de nos joueurs aujourd'hui qui plaquent en dessous du sternum. Et à l'école de rugby, c'est plaquage au short obligatoire. Alors évidemment, parfois, on a les arbitres qui oublient. Qui font pas attention.
Pas toujours sanctionné.
C'est toujours le truc, mais il y a une vraie. C'est pour ça qu'il y a la règle, il y a la manière avec laquelle elle est arbitrée, puis comment elle est enseignée à l'entraînement par les éducateurs.
Est-ce qu'il y a un travail à faire? Peut-être que ça, le médecin a un avis là-dessus sur d'éventuelles catégories de poids. C'est ce qui se fait en Nouvelle-Zélande. On en parle beaucoup. Philippe Deck, est-ce que ça pourrait changer les impacts?
On ne va pas dire le contraire, évidemment. Un très gros gabarit contre un petit gabarit, et c'est ça. Mais c'est aussi dans chez les petits, ça pose pas trop de problèmes, parce que c'est aussi l'esprit du rugby, hein, de pouvoir justement être dans une équipe avec des grands, des petits, des gros, des minces,
des filles et des garçons. De croissance, de développement.
Alors après, mais le problème, c'est les adolescents, c'est les adolescents et ceux-là qui cherchent à exploser dans leur corps et dans leur pratique, et c'est ceux-là qui sont dangereux, c'est clair. Donc c'est là où il faut commencer à Calais. Alors, je ne sais pas si c'est faisable. J'avais lu des commentaires en disant que c'était peut-être pas faisable techniquement en France, mais peut-être que dans ce niveau assez élevé, je ne sais pas ce que tu en penses.
Surtout, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
C'est un serpent de mer en Nouvelle-Zélande. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Il
n'y
a pas de compétition par catégorie de poids. Ça a été fait, je crois, à Auckland. Dans le championnat scolaire, mais c'est quelque chose qui est pas mis en place. Et alors, moi, bien placé là-dessus. J'ai un fils qui est professionnel de rugby,
à La Rochelle,
qui est plutôt pas un gros gabarit.
Arthur.
Et je vous assure que quand il était petit, il aurait pu être surclassé, bien qu'étant moins costaud que les autres. Mais dans son engagement, dans les impacts, etc. Donc c'est complexe. Ah. Et on est en train de faire des études là-dessus. Et ça fait des années qu'on y est. Hein. Déjà, le premier constat, c'est que on a 60% de nos joueurs de rugby qui seraient considérés, en fait, sur les tables médicales, comme étant obèses. C'est-à-dire que la densité...
L'indice de masse corporelle est très élevé.
L'indice de masse corporelle est très élevé, bien qu'il ne soit pas obèse. Donc ça veut dire qu'il faut construire une table de taille-poids spécifique à l'activité rugby, pour donner au pouvoir écréter les joueurs. Et donc c'est super complexe. Et donc on est en train de travailler sur... La piste, peut-être, qui semblerait peut-être la plus raisonnable, c'est de travailler en pourcentage de maturité de taille adulte. C'est-à-dire, est-ce que le joueur, il est à 100% de sa taille adulte ou à 80? Et donc, il y aurait peut-être des pistes là-dessus.
Merci Didier Rothier. Merci à vous également, Philippe Deck, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Déborah Lepage à la coordination. Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Hélène Avril. Salut confraternel à Richard Esco du journal L'Équipe. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.